somebody kusiki, somebody kusiki, somebody kusiki. Ma come on activity, on activity, on activity.
C'est des chiens, après avoir vu son frère violemment arrêté par les tiens pour quelques grammes. Le shit n'en plus jamais la lore des drames. Si l'enfant violé ou bombe dans les métros ou dans les trams, flic, quand tu nous agresses verbalement, sans coup boy, sans raison, tu nous cherches généralement. Sans motif, voilà, on voit bien derrière les vannes que tu envoies. T'attends qu'une chose, c'est que l'aine nous perde son sang-froid. Et flic, comprends que ton air supérieur à la bouche et la haine quand je vois un frère à moi qui s'est fait ta base.
I'm dangerous, dangerous, dangerous.
Voyou, barbare, intégriste, casseur, terroriste, salopard, sauvageon. Est-ce que le compte est bon?
Car tout porte à croire que les tiécards ont toute la France contre eux.
Dangerous, dangerous, dangerous.
Au déboire à Benoît, c'est pas une nouveauté.
Dangerous.
Au tribunal, on s'en sort toujours mal. Ça se ressent dans les sentences, on n'a jamais eu de chance.
Dangerous, dangerous, dangerous.
On est soudés, solides et solidaires.
Encore pire, si c'est là-dedans que je dois m'habituer, c'est là-dedans que j'ai envie de tuer. Est-ce que je demande ma liberté me soit restituée?
Besoin d'évasion, évasion, évasion, effort d'imagination. Ici tout est gris, les murs, les esprits, les rats la nuit. On veut s'échapper de la prison.
Liberté,
je dois m'évader,
ça c'est déjà fait, je sais que c'est possible.
Aujourd'hui, nous avons besoin de renouveler ce qu'on appelle la lutte anticarcérale.
Salut.
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 Vous êtes sur Radio Kaleidoscope 97 FM et c'est l'émission Les Murs ont des oreilles. Les Murs ont des oreilles, c'est une émission contre la tôle et contre toutes les formes d'enfermement et c'est tous les troisièmes mercredis du mois de 19h à 20h. Et également sur le blog Les Murs ont des oreilles tout attaché .noblogs.org où on met en ligne toutes les émissions et où il y a aussi quelques infos des luttes contre la tôle. C'est l'émission du mercredi 21 mai 2014 et avant de commencer l'émission, je vais vous rappeler nos coordonnées si vous avez envie de nous écrire pour nous faire passer des messages ou nous dire comment vous avez trouvé l'émission ou comment vous avez trouvé du son contre la prison puisque c'était il n'y a pas longtemps, il y a eu le concert diffusé en direct à la radio de Du son contre la prison. Du coup, si vous l'avez écouté, si vous avez kiffé, si vous avez des trucs à nous faire passer, ben, n'hésitez pas à nous écrire. Donc pour nous écrire, c'est soit par mail à l'adresse lesmurs, tout attaché, lesmurs, @riseup.net, lesmurs@riseup.net, soit par la poste, donc Les Murs ont des oreilles, à Radio Kaleidoscope, BP 422, Grenoble 38 018, je répète, Les Murs ont des oreilles, Radio Kaleidoscope, BP 422, Grenoble 38 018. Voilà pour les coordonnées, et alors aujourd'hui au Mur des oreilles, de quoi on va parler? On va parler de plein de choses qui se passent dans plein de pays, on est un peu international ce soir. Du coup, on va d'abord donner des infos sur la tôle de Vars, puisque donc, c'est quand même la plus proche de nous. Et ensuite, on va s'intéresser à des camarades anarchistes emprisonnés au Mexique. Ensuite, on va parler des prisonniers politiques palestiniens. Et puis, on va donner divers brefs de répression en France et en Italie. Voilà pour le sommaire de cette émission. Et du coup, on commence tout de suite à parler de Vars. Donc, on a appris que la maison d'arrêt de Vars, et donc l'État qui la gère, a été condamnée à verser 1 000 euros de dommages et intérêts à un ancien détenu du coup, une personne qui avait été incarcérée à Vars en 2009 pendant 6 ans et qui avait donc porté plainte pour mauvais traitement et conditions indignes de détention. Donc 6 ans après, la justice a fini par rendre son verdict. C'est marrant parce que des fois la justice elle va vite puis des fois elle prend son temps. Du coup, là, elle a pris son temps et bon, il va devoir toucher que 1000 euros sur les 95 000 euros qui étaient demandés. Mais bon, c'est quand même un jugement symbolique puisque c'est assez rare que l'État se juge lui-même et se condamne lui-même finalement, puisque la justice, c'est quand même aussi un peu l'État. Et surtout, il y a plein d'autres plaintes qui ont été déposées pour ça. Du coup, ça laisse indiquer que potentiellement, il va y avoir d'autres condamnations pour ces raisons-là qui vont tomber. Il faut savoir que donc, les faits pour lesquels la personne a porté plainte remontent à 2009. Mais que pour autant, depuis 2009, la situation à Vars, elle n'a pas beaucoup changé. Donc, il y a donc l'avocat Maître Koutaz, qui est l'avocat de la personne, qui racontait un peu donc, comment c'était la prison. Il dit, depuis 2009, ce qui a changé, c'est qu'il y a eu quelques coups de peinture et ils ont mis l'eau chaude. Mais pour le reste, la mauvaise isolation, les fenêtres qui ne sont pas changées, les rats, les mauvaises conditions d'hygiène, les fils électriques qui pendent au-dessus des lavabos, les toilettes dégradées qui fuient. Enfin voilà, toutes les conditions qu'on connaît dans la prison de Vars, elles sont toujours là. Et du coup, il y a toujours moyen de porter plainte contre l'administration pénitentiaire et de se faire un peu de thune pour une fois sur le dos de l'État. C'est pour une fois que ça marche dans ce sens.
Il ne faut juste pas être pressé, quoi. C'est juste ça qu'il faut se dire. On lance la procédure et après, vous avez le temps de sortir plusieurs fois de prison avant que ça bouge. Mais ça vaut le coup quand même de les emmerder, quoi.
Voilà. Pour une fois que la justice est de notre côté, ça fait plaisir. Et quand même, la petite blague, c'est qu'on a appris à peu près en même temps que la tôle de Vars était condamnée pour mauvais traitement et conditions indignes de détention. Eh bien, la directrice de la maison d'arrêt, donc Martine Bianchi, a été nommée au grade de chevalier de la Légion d'honneur, là, dans la dernière promotion toute récente qui date de Pâques. Du coup, voilà, maltraiter les détenus, ça rapporte la Légion d'honneur. Merci, la République française.
On va le couper.
Alors moi, je vais vous parler de trois prisonniers et prisonnières qui sont incarcérés au Mexique depuis le 5 janvier. Du coup, je vais vous expliquer un peu comment ils ont vécu la répression ainsi que le système incarcéral qu'il y a au Mexique. Et puis par la suite, on va vous lire des lettres qui ont été écrites par lui et elle. Du coup, je vais commencer par vous parler du déroulement de l'action. Donc, la nuit du 5 janvier 2014, le bâtiment du ministère des Communications et des Transports de la ville de Mexico, ainsi que des voitures du concessionnaire Nissan, ont été attaquées à coups de cocktail Molotov par deux groupes d'individus. Lors de l'attaque contre le ministère, la police fédérale qui surveillait le bâtiment a d'abord tiré en l'air, puis à plusieurs reprises a tiré à tir tendu sans blesser personne. La même nuit, trois compagnons et compagnonnes anarchistes sont arrêtés. Carlos, d'origine mexicaine, ainsi qu'Amélie et Fallon, d'origine canadienne. En premier temps, ils étaient détenus par le ministère public du district fédéral, puis leur cas a été transféré à la justice fédérale. Le 9 janvier, ils ont été placés tous les trois sous Arraigo. Arraigo, on peut comparer ça à une garde à vue prolongée. C'est un outil dit de la guerre contre le crime qui a été lancé en 2006 par le président Felipe Calderón. Cela s'inscrit dans la Constitution en 2008. Il s'agit d'une détention provisoire qui est à la base réservée aux personnes suspectées de liens avec la criminalité organisée. À savoir qu'il y a eu 7775 détentions sous Arraigo entre juin 2008 et mai 2012 pour des infractions ne relevant souvent pas du crime organisé. En théorie, c'est pour faciliter l'investigation, mais en vrai, c'est une stratégie pour pousser les prisonniers et prisonnières à bout. Et les autorités n'hésitent pas à utiliser la torture pour obtenir ces aveux. Autant dire que la présomption d'innocence, elle est complètement niée. Du coup, pendant 40 jours, Carlos, Amélie et Fallon ont été incarcérés sans être jugés, en n'ayant aucun droit de comparaître devant le juge ou d'avoir un avocat. Et tout ça avant toute inculpation et enquête préliminaire. Donc, lorsque l'arraigo a pris fin, Amélie et Fallon ont été transférés et sont à ce jour détenus au centre de réadaptation de Santa Marta. Et Carlos est au centre de Reclusorio Oriente, qui sont tous les deux des prisons étatiques. Donc, dans les centres de réclusion où est placé Carlos, il existe un grand réseau de corruption et de complicité entre les autorités et certains prisonniers, qui reproduisent la logique de la prison en s'assumant comme des gardiens des autres prisonniers. Ce réseau de corruption et de complicité ne sert pas seulement à renforcer les rôles disciplinaires des prisons, mais c'est aussi un gros commerce, puisque la majorité des prisonniers sont obligés de donner de l'argent pour tout. Donc les visites, les appels, et puis après, voilà, il y a énormément de violence dans ces prisons. Le jeudi 20 février, tous les trois ont été jugés et les charges fédérales sont tombées. Ils sont donc accusés d'atteinte à la paix et de dégradation matérielle en réunion. Tous les trois ont fait appel. Donc maintenant, si la compagnie Nissan accepte une réparation des dommages pour 10 000 dollars, il restera à payer la caution en lien avec la perturbation de la paix, un montant qui est encore inconnu. Et puis, selon la loi au Mexique, les détenus doivent payer l'eau, la nourriture, l'endroit où ils dorment, les vêtements, les cartes téléphoniques. En fait, ils doivent payer leur séjour en prison. Si la compagnie refuse cet appel, le juge aura 15 jours pour décider s'il les libère ou non. En cas de refus, elle et ils seront incarcérés jusqu'au procès, soit de 6 mois à 1 an. C'est un procès qui dure longtemps à cause de l'application d'une procédure inquisitoire. En fait, une procédure inquisitoire, ça se passe tout par écrit. Donc, c'est-à-dire que les dépositions des témoins sont présentées au juge ou à son représentant par écrit. Les avocats des deux parties présentent leur argumentation au juge de nouveau par écrit. Et puis, il n'y a pas de salle d'audience. Dans chaque prison, il y a aussi un endroit, c'est-à-dire un bureau adjacent où les prisonniers et prisonnières témoignent et répondent aux questions. Le déroulement des séances se fait pas seulement en quelques fois, c'est-à-dire que ça peut durer beaucoup de temps. Ça prend énormément de temps parce qu'il faut beaucoup de séances pour que toute la cause soit entendue et que les témoins soient entendus, que le juge donne son avis. Et c'est pour ça que c'est une procédure qui peut durer des fois jusqu'à un an. S'il y a un procès, il y aura besoin d'argent pour couvrir énormément de frais de détention. Voilà. Du coup, ces arrestations, elles s'inscrivent dans un contexte plus large de répression au Mexique, contre les luttes sociales, par des attaques répétées, contre des manifestations et par la torture, voire l'assassinat de personnes arrêtées. Depuis un an, l'État et les médias se focalisent particulièrement sur les mouvements anarchistes anti-autoritaires. Dans l'histoire de l'attaque du ministère, l'État tente de montrer le récit bien connu d'étrangers venus au Mexique pour y provoquer des perturbations. Voilà, du coup, un petit résumé de la situation de ces trois camarades anarchistes incarcérés au Mexique.
Libertad pa' los presos, libertad yo pido pa' los presos. Si algún día yo tropiezo, tal vez porque yo lo merezco. Libertad pa' los presos, libertad yo pido pa' los presos. Si algún día caigo preso, bájenme pa' retroceso. Libertad pa' Juan, pa' Pablo, Simón, libertad pa' tu corillo y pa' ti, cabrón. La mañana, la noche te espera en el callejón, donde no reina los vicios, pero sí el corazón. Tu tentación puede ser tu maldición, y tu corrupción puede ser tu perdición. Lo que somos de calle es bajo una condición. Dime tú, hermanito, ¿quién no quiere un millón? Hay que buscar lo suyo, loco.
contigo hasta la muerte. Todos somos libres de probar nuestra suerte, pero nadie se libra de la cárcel, mi gente. De la mala vida por ser un delincuente. Los que caemos presos queremos ser inocentes, pero te levantas y te encuentras en una celda. Ahí te das cuenta que no es cuestión de huelga, la hora es la verdad. Gritamos libertad.
Libertad para los presos, libertad yo pido para los presos. Si algún día yo tropiezo, tal vez porque yo lo merezco. Libertad para los presos, libertad yo pido para los presos. Si algún día caigo preso, bájeme para retroceso.
Nada más pido libertad. Soy un gangster, me dicen maleante por no llevar tirante. Y esa es la verdad, no soy traficante, pero la consumen mucho pa' tirar pa'lante. Por no tener sencillo, por estar en la calle el calzoncillo. Por eso se pierden los chiquillos, por coger pirillo. Por eso sacaban el presidio y con cabezazo no se rompen los quicios.
El Batman, mala rata, tan tan. Pero por el pan, tras la lata se van. Quiere ser Bad Boy, controlando el style. Y en la finca la rea, ya saben lo que hay. Sálganse pa' afuera, rumba hasta la acera. Toda mi primavera yo la gozo como quiera. Esa guayabera coge la playera. Esta noche hay party, mi familia espera afuera.
Libertad pa' los presos, libertad yo pido pa' los presos. Si algún día yo tropiezo, tal vez porque yo lo merezco. Libertad pa' los presos, libertad yo pido pa' los presos. Si algún día caigo preso,
que está en Cuba, Dominicana, Puerto Rico, España, Estados Unidos, México, Panamá, Venezuela, Colombia, Salvador, Honduras. Todos tenemos derecho de estar libres. Y doy un voto por eso, maní. Comandante Fly, Little Pink, Nigga Swing. La realidad de la calle, manito. Ya sabes.
Vous venez donc d'écouter un morceau de Comandante Fly, Libertad para los Presos. Moi, je vais vous lire une lettre du coup d'Amélie, incarcérée au Mexique. Ce sont des extraits de lettres. La prison, comme la police, est un fait nécessaire au maintien de la paix sociale. C'est la domination et le contrôle qui permettent à ce monde dégueulasse de persister. La prison signifie peur, inconnu, honte, solitude, isolement. La société, c'est le dressage des individus en bons citoyens. Ainsi, ma force en tant qu'individu prend racine dans le refus que la peur soit une limite dans ma vie. Bien sûr que j'ai peur, comme tout le monde, de plein de choses. Mais mes désirs de liberté sont plus forts. La peur est souvent construite et se déconstruit quand on y fait face. Ce qui importe, c'est de voir plus loin, de dépasser les cadres, les frontières, au-delà des murs, des montagnes, des fleuves et des océans. Je suis ici pour je ne sais combien de temps, mais je ne m'apitoie pas sur mon sort. J'ai confiance que dehors, la lutte continue et les gens se rencontrent, s'aiment, se détestent, vivent, hostie. En fait, je ne me sens pas à l'aise avec des gens focus sur notre cas, sans engager leur propre lutte dans leur contexte. Je pense que la meilleure solidarité se construit dans le partage des forces individuelles et collectives. Le pire pour moi serait que rien ne se passe dehors, alors que nous sommes séquestrés ici. Mais je sais que mes amis continuent, malgré les difficultés auxquelles nous devons faire face. Ma réalité d'anarchiste en prison n'est qu'un fait parmi d'autres avec lequel nous devons nous adapter. Le plus difficile est souvent de maintenir et protéger les liens de confiance entre compagnons et compagnonnes avec qui nous partageons des affinités pour pouvoir penser dans le long terme. Lorsque c'est possible, cela fait émerger des possibilités inimaginables. En ce sens, mes idées et analystes restent les mêmes qu'en dehors. C'est pourquoi je n'ai pas envie de changer mon discours pour recevoir l'appui des gens. J'apprécie énormément les efforts de solidarité qui ont été faits jusqu'à maintenant. Par contre, je me distancie de certaines initiatives qui ont été prises en solidarité avec nous à Montréal. Lors de la vigile qui eut lieu devant le consulat mexicain, le discours exposé dénonçait la torture et le non-respect des droits humains pratiqués dans l'État mexicain. L'ONU a été mentionnée avec un ton réformiste et progressiste. Honnêtement, j'apprécie que plusieurs personnes se préoccupent de notre cas, seulement je refuse d'utiliser ces discours réformistes illusoires. Pour moi, l'injustice, la torture et le non-respect des droits humains font partie intégralement du monde tel qu'il est. Les droits sont régulés par l'État et sont suspendus à tout moment, dès que besoin se fait sentir. De plus, cela favorise l'idéologie de la démocratie, des droits pour des citoyens, la plus grande des illusions qui soit. Et surtout, appuyer nos idées en faisant référence à des instances du pouvoir, telles l'ONU, ne peut construire une lutte anti-autoritaire forte. Ce n'est pas en tentant d'influencer l'opinion publique avec des discours réformistes que l'on pourra construire les bases solides d'une lutte irrécupérable. Je ne sais pas combien de temps je serai enfermé ici, mais une chose est certaine, ce ne sera pas pour toute la vie. J'ai la chance d'avoir des amis et des compagnons et compagnonnes de lutte géniaux. Et je ne me sens pas seul. La force et le courage se trouvent d'abord en soi. Il y a un univers de possibles ici comme ailleurs. Toutes formes de domination sont à combattre, autant celles qui créent les structures et les institutions que celles qui s'immiscent dans nos relations. Il n'existe pas de paradis ni de monde parfait. La liberté, c'est le mouvement et le conflit permanent en confrontation avec le monde des images, des symboles et des apparences. La liberté, c'est la destruction des structures de domination sur nos vies. Au Mexique, à Montréal, en France, à Vancouver, aux États-Unis, en Espagne, en Grèce, au Chili, en Égypte, en Belgique, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, en Hollande, je salue mes amis et compagnons compagnonnes de lutte. Pour la liberté totale, je souhaite que des liens se forgent dans la lutte. 23 février 2014.
Et moi, je vais vous lire maintenant une lettre qui a été écrite par Fallon. La même chose, je vais prendre quelques extraits. Quand nous avons été arrêtés, le 5 janvier 2014, pour moi, c'était un peu comme une blague. Avec les 7 chars de flics qui bloquaient la rue, j'avais l'impression d'être dans une pièce de théâtre. Et depuis ce moment-là, la sensation est restée. Tout le monde joue son rôle. Je me rappelle du moment où, vers 2 ou 3 heures du matin, on nous transportait du PJJ, bureau du procureur général de la justice, au centre scientifique pour les tests. Nous y étions 3, dans 3 voitures différentes, avec 2 flics de chaque côté de nous et un minimum de 10 chars de flics qui nous escortaient en faisant aller leurs gyrophares dans les rues désertes du DF. Et avec les scientifiques qui dormaient presque quand nous sommes arrivés au centre. Un vrai show. CSI, Miami, à Mexico. Ah, le centre d'Arraigo, ouf. Ce fut la chose la plus théâtrale que j'ai vécue de toute ma vie. Quand nous sommes arrivés, la rue était fermée pour notre venue. Les hommes, avec leurs muscles de téléroman et avec leurs mitraillettes, étaient dehors, dans la rue, et aussi dans le fourgon avec nous. Je ne pouvais pas m'empêcher de rire. Rire de leur autorité pour laquelle je n'ai pas le moindre respect. Rire de manière dont ils se prenaient tellement au sérieux. Ken et Barbie, en uniforme de police fédérale. Et les prisonniers, prisonnières qui n'avaient pas de nom, mais qui avaient la chance d'avoir une couleur. La mienne était orange. Le pire était que les filles de ma cellule avaient adopté les rôles de la soumission, de la peur et de l'autorité entre elles. Si sérieusement qu'elle donnait l'impression d'auditionner pour un film hollywoodien. Désolée pour les personnes qui pensent que je tourne tout au ridicule, mais c'est vraiment comme ça, une blague, un jeu de rôle. Et maintenant, ici, à Santa Marta, il y a plusieurs quartiers allant de A à H. Il y a un parc, des appartements, des voisines, il y a un dépanneur, des travailleuses du sexe, des drogues un peu partout. Il y a des gens qui reproduisent les rôles des filles et de garçons. Il y a aussi beaucoup de bébés. Il y a une école, une clinique, un palais de justice. Il y a des études qui sont menées pour te classifier à Santa Marta. Il y a de la corruption, du pouvoir formel et informel. Il y a des horaires et aussi beaucoup d'émotions, beaucoup d'histoires, beaucoup de temps pour partager des expériences, de la rage et certainement beaucoup de cigarettes et de café à partager. Eh bien, je ne sais pas si je suis claire. Mais maintenant, Santa Marta est ma nouvelle ville. A est mon nouveau quartier. 107 est mon appartement. Et Amélie, ma voisine. Pour moi, c'est plus clair que n'importe quelle théorie. Voilà, du coup, on va maintenant vous donner des adresses. Si vous avez envie d'écrire à Amélie, à Fallon ou à Carlos.
Donc si vous voulez écrire à Amélie ou Fallon, vous écrivez à l'adresse suivante. Centro Feminil de Reinserción Social, Santa Marta, Acatia. Amélie Trudeau, Trudeau ça s'écrit T-R-U-D-E-A-U, et Fallon Rouillet, Fallon, F-A-2-L-O-N, Rouillet, R-O-U-R-O-U-I, 2-L-E-R. Calzada Ermita, Iztapalapa, numéro 4037. Iztapalapa, ça s'écrit I-Z-T-A-P-A-L-A-P-A. Colonia Santa Marta a Catilta, Delegación Iztapalapa, CP 09560. Pour l'adresse pour écrire à Carlos, Reclusorio Preventivo Oriente, Carlos López Marine, Calle Reforma, numéro 50, Colonia San Lorenzo de Sanco, Delegación Iztapalapa, CP 09800. Vous pourrez trouver plus d'infos sur la situation des camarades anarchistes incarcérés au Mexique sur les sites internet suivants. Montreal.mediacoop.ca, abajolosmuros.org et nonfides.fr, non-fides.fr. Et on peut peut-être donner aussi le nom du site pour faire du soutien financier.
Alors, le site, c'est www.clacmontreal.net/mix-1. Clac s'écrit CLAC-Montréal, MONTREAL.net/MX-1.
Je voulais juste rajouter que du coup, on mettra toutes ces références sur le blog qui permettra pour les personnes qui n'ont pas eu le temps de prendre tout en note de pouvoir avoir les liens et les adresses des personnes incarcérées. Comme ça simplifie les choses. Donc on va passer sur une autre partie du blog, du globe, ça commence bien, et on va parler de la Palestine, où depuis le 24 avril, environ 120 prisonniers administratifs palestiniens sont en grève de la faim illimitée pour protester contre leur détention sans procès. Ils ont été depuis rejoints par une vingtaine de prisonniers. Donc au 1er avril 2014, il y avait 191 prisonniers administratifs palestiniens dans les geôles israéliennes, dont 9 sont des membres du Conseil législatif palestinien. La détention administrative est une procédure qui permet à l'armée israélienne d'enfermer des Palestiniens indéfiniment sur des informations tenues secrètes, sans inculpation ni procès. Durant cette période, ils ne peuvent pas avoir accès aux preuves qui ont conduit à leur interpellation. Ils ne peuvent pas non plus bénéficier de visites de leur famille, sachant que l'ordre de détention administrative va de 1 à 6 mois et peut être renouvelé durant plusieurs années par les tribunaux militaires israéliens. Certains Palestiniens ont passé plus de 8 ans en prison sans jamais en connaître les raisons. Donc cette grève de la faim s'inscrit dans la continuité de celle de mai 2012, à laquelle 2000 prisonniers palestiniens ont participé pour dénoncer l'isolement carcéral et la détention administrative. Un accord avait été alors à cette époque conclu entre l'administration pénitentiaire israélienne et les représentants des prisonniers palestiniens afin de limiter l'utilisation de la détention administrative. Depuis, Israël a évidemment renié cet accord et a continué à utiliser cette forme d'enfermement de manière récurrente. Du coup, voilà la raison pour laquelle ils ont repris une nouvelle grève illimitée. Le 8 mai dernier, 5100 prisonniers palestiniens incarcérés dans les prisons israéliennes ont fait une journée de grève de la faim en solidarité avec les prisonniers administratifs. Cette action est envisagée comme un avertissement de la part des prisonniers palestiniens qui menacent d'entamer une grève de la faim massive et illimitée si les revendications des prisonniers administratifs ne sont pas satisfaites. Actuellement, les prisonniers administratifs qui mènent la grève de la faim ont été isolés du reste de la population carcérale, certains placés dans des tentes. Ils sont privés de l'accès au sel, seul aliment utilisé pendant une grève de la faim, qui permet de limiter les dégâts sur les fonctions vitales du corps humain. Ils subissent également des fouilles quotidiennes et sont menottés 10 heures par jour. J'en profite aussi pour signaler qu'il y avait quand même des prisonniers, notamment des prisonnières qui étaient déjà en grève de la faim avant ce mouvement-là, pour leur cas personnel, et qui du coup continuent leur grève et l'associent à la grève de la faim globale liée aux prisonniers administratifs. Donc on en profite pour faire un petit topo sur le système judiciaire israélien concernant spécifiquement les prisonniers palestiniens. Donc concernant les données générales, les chiffres divergent un peu concernant le nombre de prisonniers. C'est difficile d'avoir quelque chose de précis. Il y aurait à peu près entre 5021 et 5224 prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes, dont 191 sont prisonniers administratifs, 210 sont des enfants et 21 sont des femmes. Parmi ces prisonniers, certains font partie des prisonniers longue durée qui auraient dû être libérés suite aux accords d'Oslo en 93. Donc ça fait quand même un long temps d'attente pour une libération. Il y a également à rajouter sur ces 5000 et quelques prisonniers, 1333 prisonniers palestiniens dans les structures pénitentiaires israéliennes qui sont incarcérés pour présence illégale sur le territoire israélien. Ceux auxquels il faudra potentiellement rajouter les prisonniers palestiniens enfermés dans les prisons palestiniennes pour tout autre délit que des actes liés à la résistance, face à l'occupation israélienne. Donc, selon l'UNICEF, environ 700 enfants palestiniens de 12 à 17 ans, en grande majorité des garçons, sont chaque année arrêtés. Interpellés la nuit, dans leur lit, par des soldats lourdement armés, ils sont coupés de tout contact avec leur famille jusqu'à leur comparution au tribunal militaire. Durant cette période indéterminée, les enfants sont placés à l'isolement et interrogés par l'armée, la police et des agents de sécurité israéliens. En moyenne, les enfants passent une dizaine de jours en isolement, mais certains ont été maintenus à l'isolement pendant plus d'un mois. Privés de la présence d'un avocat, de contact avec leur famille et presque jamais informés de leurs droits, y compris celui de garder le silence, les enfants sont soumis à des interrogatoires prolongés, des abus et de la violence. De nombreux témoignages de pratiques de torture et de menaces de viol ont été collectés dernièrement par des ONG qui amènent les ONG à vouloir intenter un énième procès contre l'État d'Israël. La plupart des enfants sont accusés de jet de pierre, accusation qui peut conduire à une peine allant de 20, jusqu'à 20 ans de prison selon l'âge de l'enfant, ce qui fait quand même relativement cher le jet de pierre. Mais l'accusation peut être un prétexte pour contraindre les enfants à fournir des informations utiles pour Israël afin de supprimer toute forme de résistance à l'occupation et en l'occurrence à pouvoir arrêter plus d'adultes palestiniens. 74% des enfants qui seront ensuite incarcérés feront l'objet de tortures et de sévices pendant leur détention. Donc, après avoir parlé des enfants, concernant les adultes, c'est guère mieux. Donc les interrogatoires qui suivent les arrestations peuvent durer 30 à 40 jours. Les aveux sont tenus sous la violence et les menaces. Le jugement par les tribunaux administratifs israéliens se fait sans enquête préalable, sur la base de soupçons ou de dites dénonciations anonymes. Les condamnations s'appuient généralement sur aucune preuve et il va de soi que l'incarcération des Palestiniens ne se fait pas du tout dans les mêmes conditions que celles des Israéliens. Israël d'ailleurs qui a été félicité parce qu'il a une bonne place dans le listing des bonnes conditions d'incarcération, sauf que évidemment c'est le genre d'enquête qui omet de regarder les quartiers et les prisons qui sont réservés pour les Palestiniens. Mais rien ne vaut quelques exemples pour illustrer le traitement judiciaire et pénitentiaire des Palestiniens par Israël. Donc, par exemple, certains des cas les plus connus et les plus suivis au niveau international, Samer Issaoui, arrêté en 2002 et accusé d'activités terroristes, il est condamné à 26 ans de prison, puis il est libéré en 2011 dans le cadre d'un échange de prisonniers. Il est de nouveau arrêté en 2012 pour s'être rendu à Jérusalem-Est. Israël exige alors qu'il purge le reste de sa peine sous prétexte de le soupçonner de vouloir activer des cellules terroristes. Évidemment, sur la base d'un dossier tout à fait construit et crédible, on n'en doute pas. Il entame alors une grève de la faim de 177 jours, c'est-à-dire plus de 5 mois. Il la cesse après qu'Israël ait promis de le libérer, et évidemment pas par bonté d'âme, mais sous la pression de l'Union européenne, ce qui a été fait en décembre dernier. Mais depuis, Israël a emprisonné sa sœur Shiren, qui est elle avocate, pour la deuxième fois. Il y a également le cas de Mahmoud Sarsak, Gazaoui, étudiant en deuxième année d'études informatiques et membre de l'équipe nationale de football palestinienne. Il a été arrêté en 2009 au motif qu'il représente un danger pour Israël, alors qu'il se rendait seulement en Cisjordanie pour s'entraîner et intégrer son nouveau club de foot. Accusé sans aucune preuve d'appartenir au djihad islamiste, il est détenu pendant 3 ans en tant que combattant illégal, puisque voilà, un des motifs d'incarcération d'Israël, c'est d'être du coup combattant illégal. Sans procès, avocat, ni droit de visite. Il est libéré suite à une grève de la faim et grâce au soutien international, notamment d'un certain nombre de footballeurs. Là encore, un cas un peu particulier puisqu'il a bénéficié d'énormément de soutien en Occident. Dernier cas, Omar Saad, 18 ans, violoniste, condamné pour la 6e fois à la prison pour refus d'effectuer son service militaire. En tant que Palestinien de 48, donc pour expliquer rapidement ce qu'est un Palestinien de 48, en 48, à la création de l'État d'Israël, les Palestiniens sont chassés de leur village et chassés de leurs terres. Certains, pour X ou Y raison, restent sur ces territoires-là et donc deviennent des Palestiniens avec une nationalité israélienne, mais clairement des Israéliens de seconde zone, enfin des citoyens, entre guillemets, de seconde zone. Donc, en tant que Palestinien de 48, de confession druze, il est supposé se soumettre à cette obligation de service militaire. Et c'est donc la 3e fois qu'il va en prison pour ce refus de participer à cette grande mascarade citoyenne qui est le service militaire israélien. Voilà, je vais vous épargner les nombreux récits de torture qui pourraient émailler ce merveilleux dossier. Il y en aurait pas mal à dire. Et j'ai essayé désespérément de trouver une conclusion, un petite chose comme ça pour finir. J'ai pas réussi à trouver. Voilà, donc Israël, grande démocratie, là où, selon les pubs, tout a commencé. Voilà, félicitations.
Et du coup, on va finir quand même en chanson. On va passer un morceau donc, de Arabian Nights, qui est un groupe de rap égyptien, en featuring avec Shadia Mansour, qui est donc la fameuse, très connue rappeuse palestinienne. La chanson s'appelle Prisonnière et ça fait donc le parallèle entre la situation de la Palestine et une prison.
فهوس فني هكلم عن كل حلم اترسم من غضب ومن دفن اتقسم متحب الالم من فكري في المرحله السم عيان والحلول اللي تنقص عناوين جانبيه ارهابيه من عيون معميه باستغلاليه بعد حروب عالميه محميه مداريه منسيه مرميه على اكتاف مش مرضيه باستخفيه بطريقه اتكاليه على الاراضي العربيه بسلبيه مرئيه اتهزيه ورا الاعلام الاسلاميه بيبينوا النيه احتلاليه عناديه سي كوباتيه سريه انانيه استراتيجيه ضد الإنسانية وبعد المسيسة متابعة قاعة المشاهدة لكل عربي بيتزل مستني مساعدة ما خلص كسروا بينا كلمة مسندة ومن عقولنا أخدوا الورق اللي كسب في النعمة Running it, spitting evil wisdom. I'm destroying the oppressors in Arabic settlements. Known for blowing up beats and governments. My peeps die in the crib while you close your eyes. To what you were kidnapped, you call it terrorist crime. The media backing up murderous propaganda while we fight eternally. Like immortal Highlanders. Durra Sheikh Yassin, the pain's unseen. Forging your own stories for the blind to see. Wanna draw your own opinion by the bombs we face. What's your opinion if you're slave and your mom is raped? It's the easy to speak when you're far from the heat. Through the White House I creep and yes I'm armed to the teeth. With a mic and a pen in the pad, here's your evidence. Weapons of mass destruction, Mr. President.
Got me losing sleep, man. Mr. Politician, I got a little question. How come you are eating and all your people's dissing? I am on a mission to break up out of this prison. If you with me, share my vision and stop by saving the children.
احنا بنمشي بكرامه وثقه بالنفس. ما عصنا قوانينكم بالسرمود بالدم. لو انه ضميركم رايحكم ما بتتكلموا من ورا الفرد. قول لي مين ما عم بينام بالليل عن جد. عبين انتم بتبنوا حواجز احنا بنكبر عيالنا ومنضلنا نزيد العدد. نحن السبب ليش ما بتسترجوا تغمضوا عين. في فرق كبير بين مقاوم ومقررين.
That I'm writing you from my prison. What prison? A prison not of bars, but a prison constructed for me out of my passion for truth and justice. And that propaganda has put me in a prison. Like Joseph spoke to Pharaoh out of prison. I know this Pharaoh don't only have troubling dreams, he has troubling realities.
Le 5 avril à Paris, 400 personnes ont marché contre les violences et les crimes policiers. Les familles de Lao Sin Ait Omgar, d'Amin Bentounsi, de Wissam El Yamni, tués par la police, ont été rejointes par des victimes de flashball et borniers blessés. Pierre de Nantes et le collectif 8 juillet pour les 5 de Montreuil. La manifestation du 5 avril nous rappelle que la violence est le quotidien de la pratique policière. Exemple, coups de stress, claques, insultes. Les morts et les blessés en sont l'expression la plus forte. Pas de bavure, mais la conséquence d'un fonctionnement et d'une volonté politique avec l'impunité judiciaire pour enfoncer le clou. Un autre constat doit être fait en égrenant la liste des morts. Celui d'une police qui tue essentiellement les habitants des quartiers populaires et le plus souvent noirs et arabes. Alors que ceux qui ont été touchés par la répression pendant qu'ils manifestaient sont, quant à eux, mutilés. Ce traitement différencié des populations qui donne un permis de tuer à la police quand elle récrime dans les ghettos révèle le caractère raciste de son action. Celle-ci est appuyée par les politiques de division des gouvernements successifs de droite comme de gauche concernant l'islam, l'immigration, les Roms, etc. Mais on ne peut se contenter de convoquer le racisme institutionnel pour expliquer la dureté de la répression. L'oppression qui vise les habitants des quartiers est double. Au racisme s'ajoute la question sociale. Être condamné à une vie de misère, de chômage, de précarité, de mal logement sont autant de raisons de se révolter contre le renforcement de l'austérité que nous promettent les plans du nouveau gouvernement Hollande-Valls. Il n'y a rien à attendre du côté des partis. De gauche comme de droite ou d'extrême droite, tous sont embourbés dans les magouilles électorales. Le seul espoir reste la rue. Quand, comment, sous quelle forme le couvercle va sauter, personne ne peut le prévoir. Le flashball est le symbole d'un tournant. Testé dans les quartiers populaires, les retours d'expérience des flics, suite aux révoltes de 2007, ont contribué à la généralisation d'un lanceur de balles de défense plus puissant. Le 22 février, lors d'une manifestation à Nantes, à notre connaissance, 3 personnes perdent l'usage d'un œil. Le directeur départemental de la sécurité publique de Loire-Atlantique assume cette nouvelle forme de terreur. Ceux qui prennent le risque de s'en prendre aux forces de l'ordre s'exposent eux aussi à des dommages corporels. L'État prépare une casse sociale d'une ampleur inégalée en promettant de mutiler et détruire les corps des révoltés. Cette année, la convergence du combat des familles des tués par la police et de celui des personnes mutilées au flashball annonce que les insoumis ne se laisseront pas faire.
Voilà donc le texte qu'on vient de lire. En fait, c'est l'introduction du dernier numéro d'une revue donc, qui est disponible en version papier et sur Internet. Qui s'appelle Résistons Ensemble et qui est une revue qui parle en gros d'abus de pouvoir et de police et de prison et tout ça, et de racisme. Et du coup, on avait envie de lire ce texte puisque c'était bien dans la tonalité de cette émission sur la répression policière, sur les armes utilisées par les États démocratiques pour réprimer leur population. Et du coup, donc, dans ce texte, ça faisait le lien entre les personnes majoritairement issues des quartiers populaires, majoritairement arabes ou noirs, qui se font tuer par la police et des manifestantes plutôt blanches qui se font... gravement blessé par à coup de flashball lors d'expulsion ou de manifestation. À cette liste, on avait aussi envie de rajouter les personnes, encore une fois majoritairement arabes ou noires et issues des quartiers populaires, qui sont mortes en prison dans les années récentes. Et on pense notamment donc, à Sofiane Mostefaoui. Donc, il y a un collectif pour Sofiane Mostefaoui qui s'est monté à Lyon il n'y a pas longtemps pour faire la lumière sur les conditions de sa mort en détention. On vit dans un pays où effectivement la police raciste n'hésite pas à non seulement arrêter et réprimer les gens, mais aussi à s'attaquer physiquement aux personnes, soit en les blessant, soit en les enfermant, soit en allant jusqu'à les tuer.
Et c'est ça la démocratie.
Et du coup, pour rester toujours dans cette même thématique, je voulais faire un petit retour. Donc il y a eu, il y a pas longtemps, donc, le rendu d'un procès sur des personnes qui se sont faites arrêter et qui étaient accusées d'être les leaders et les meneurs d'émeutes qui se sont passées à Amiens en août 2012. Donc évidemment, aucun journal ne va repréciser d'où sont parties ces émeutes, du coup je vais le faire. Un jeune du quartier qui est mort en août 2012. Et la police avait eu la bonne idée le jour où il y avait un espèce de rassemblement de commémoration pour aller à l'enterrement de ce jeune du quartier, de faire un contrôle massif d'identité. Hein. C'est vrai que quand il y a plein de pauvres dans la rue, autant en profiter pour les réprimer. Et du coup, voilà, suite à ça, il y avait donc eu des émeutes. Des policiers s'étaient fait blesser et des bâtiments publics avaient été vandalisés, tels que décrivent les médias officiels. Et du coup, suite à ça, ils ont cherché des gens, ils n'ont pas vraiment réussi à en trouver. Alors, ils font comme ils font régulièrement, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté des gens un peu au hasard sur des bases de rumeurs et de témoignages un peu qu'on ne sait pas d'où ils viennent. Et il y a toute une série de procès. Donc là, il y en a un, le rendu a été donné le 13 mai. Il y en avait eu un petit peu avant, qui concernait des personnes qui étaient mineures au moment des faits, du coup, qui sont passées au tribunal pour enfants. Et ils ont été condamnés à des peines allant de 4 mois avec sursis à 30 mois d'emprisonnement, dont 24 fermes. Donc 24 mois d'emprisonnement pour une personne qui était mineure au moment des faits, c'est quand même quelque chose d'énorme. Et donc là, pour le procès dont le rendu a été donné le 13 mai, donc il y a 6 personnes qui ont été condamnées à donc, plusieurs peines. 2 personnes qui étaient considérées comme les meneurs. On ne sait pas vraiment sur quel fait, mais voilà, il faut toujours des meneurs dans la vie. Du coup, c'est eux qui ont été désignés comme tels. Sur les 6 personnes, il y a eu des peines allant de 12 mois, dont 1 ferme, à 3 ans, dont 2 fermes. Donc voilà, les 2 personnes considérées comme des meneurs ont été condamnées à 2 ans ferme. Donc il y a un mandat d'arrêt qui a été mis, puisque vu qu'ils n'étaient pas au procès, pour le moment, en tout cas, ils ne sont pas en prison, ils sont en cavale. Il faut savoir que dans la bouche même de l'avocate, donc maître Messaouda Yahyaoui, en 22 ans de métier, c'est du jamais vu en fait, des peines aussi lourdes qui tombent pour des faits comme ça, c'est inattendu. Il faut savoir qu'une fois de plus, le procureur a bien montré le mépris dont est capable l'institution judiciaire et l'État vis-à-vis de certaines populations en disant que en fait, c'est pas la souffrance du quartier et la colère après ce qui s'était passé qui justifiait de s'en prendre aux forces de l'ordre qui sont là pour faire leur travail. Voilà, donc ça c'était pour faire le lien avec ce qu'on avait dit avant sur la répression dans les quartiers populaires et la justice et la police raciste. Tant qu'on parle aussi de répression, je me perds dans mes papiers, on voulait aussi parler donc de camarades emprisonnés en Italie cette fois. Donc c'est des personnes qui sont impliquées dans la lutte qu'on appelle NOTAV, donc contre la construction d'un TGV Lyon-Turin qui irait de Lyon jusqu'à Turin en défigurant toute une partie de la vallée. Donc c'est une lutte qui s'inscrit, une lutte populaire qui existe depuis 40 ans, qui est très majoritairement portée par les habitantes et les habitants de la vallée. Donc il y a eu plein de répressions dans les années passées, puisque c'est... ça a été décrété comme intérêt national et intérêt européen que ce projet se fasse. Et du coup, si on s'attaque à ce projet, on est des méchants terroristes qui tentons de déstabiliser non seulement l'Italie, mais également l'Union européenne dans son entier. Donc voilà, il y a 4 personnes qui sont faites arrêter en décembre dernier avec des motifs, des tentatives de déstabilisation de l'Italie, de l'Union européenne. Enfin, vraiment, c'est des dangereux terroristes qui vont mettre le monde entier à feu et à sang. Et en fait, pourquoi ? Puisqu'il y a eu donc un sabotage sur un des chantiers du Notav, enfin un chantier de reconnaissance du Notav. Il y a un local qui a été mis à feu. Personne n'a été blessé. C'était pendant la... Enfin, voilà. Du coup, il y a quelque chose qui normalement relèverait du droit commun, qui est un truc de dégradation de biens publics, et bien tout à coup ça passe en entreprise terroriste à vue de déstabiliser l'Italie et l'Union européenne. Et du coup ces personnes risquent au moins 20 ans de prison, et elles sont donc en prison en Italie, pareil, dans des processus d'isolement et avec de la répression très forte. Et ils vont donc passer en procès le 22 mai 2014, et par rapport à ça il y a un appel à solidarité internationale, et du coup notamment en France. Donc tenez-vous au courant sur Internet, il y a plusieurs actions qui vont être menées, notamment le 24 mai, il y aura un rassemblement à Rennes en solidarité. Et du coup, si vous avez envie d'exprimer votre solidarité à ces personnes, c'est possible de la réécrire. Donc je vais vous donner les adresses, et puis pareil, on les mettra sur le blog, comme ça, sera possible de les récupérer. Donc c'est 4 personnes, donc c'est Chiara, Claudio, Mattia et Nicolo. Donc il y a Chiara, C-H-I-A-R-A, Zenobi, Z-E-N-O-B-I. Vous pouvez lui écrire à Casa Circondariale Rebibbia, via Bartolo Longo, 92 000 156, Roma, Italie. Claudio Alberto, donc Claudio C-L-A-U-D-I-O, Alberto A-L-B-E-R-T-O, Casa Circondariale via Arginone, 327-44-122 Ferrara, c'est la ville. Mattia, M-A-D-T-I-A, Zanotti, Z-A-N-O-D-T-I, et Nicolo, N-I-D-C-O-L-O, Blasi, B-L-A-S-I, Casa di Reclusione via Casale San Michele, 50-15-100 Alessandria. Et il y a également une caisse de solidarité, donc pareil, pour récolter de l'argent pour les frais judiciaires et pour payer des mandats, à laquelle vous pouvez cotiser. Et donc il y a des codes pour cotiser. On les mettra sur le site parce que je ne vais pas les dire, ça va être trop réverbératif. C'est plein de chiffres et de lettres qui se suivent et qui ne veulent rien dire. Du coup, voilà, vous les retrouverez sur le site, sur le blog des Murs en Désoreille.
Ben après cette merveilleuse émission, pleine d'entrain, pleine d'enthousiasme et qui nous rappelle combien ce monde est merveilleux, que ça soit en France, au Mexique, en Palestine, enfin Israël en l'occurrence pour le cas précis, en Italie, etc., etc., on va conclure. Niveau de... Si vous voulez écrire à l'émission... Blablabli, blablabla. Est-ce que quelqu'un pourrait rappeler les adresses ? Parce que moi, je ne les ai absolument pas en tête à l'instant précis.
C'est les prisons israéliennes qui t'ont fait perdre la tête.
C'est ça.
Alors, les coordonnées de l'émission, donc il y a une adresse mail qui est lesmurs@riseup.net et une adresse postale, les murs ont des oreilles, Radio Kaleidoscope, BP422, Grenoble 38018.
Voilà, donc on vous donne rendez-vous à la prochaine émission, donc qui sera le 18 juin. On vous promet, on essaiera de trouver des sujets plus marrants et de faire des blagues. Mais bon, on le promet chaque mois et ça ne marche pas. Mais c'est pas grave, on y met de la bonne volonté et un jour on y arrivera.
Et on n'a même pas parlé d'évasion parce qu'on n'a pas vu passer de nouvelles d'évasion. Alors si vous avez envie de vous évader avant le mois prochain, surtout n'hésitez pas.
Il y a eu quand même 3 évasions de l'EPM de la Valentine le 9 mai 2014. Ça me fait penser que c'était d'ailleurs le même jour que la soirée du son contre la prison. Donc si vous qui êtes à l'intérieur à Vars, si vous avez entendu ce concert, la soirée, on sera content et contente d'avoir des retours, on se fera un plaisir de vous lire et de vous répondre. Alors n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qu'on vient de donner, l'adresse postale.
Salut.
Salut.